Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Lors de la dernière émission, nous avons abordé les sujets autour des blessures contre l'unité du corps du Christ, en particulier au travers des termes hérésie, apostasie et schisme. Et face à ces blessures, l'Église, parfois, ou même régulièrement, condamne ces blessures, condamne ces séparations. Et ma question, c'était, on n'avait pas pu terminer la dernière fois, ma question c'est, est-ce que c'est signe d'impuissance de l'Église qui s'exprime par la colère en disant « bon, bah, c'est pas bien, vous auriez pas dû faire ça » ou est-ce qu'il y a une utilité à condamner ces séparations, à exprimer par des mots, à expliquer ces séparations ?
Oui, c'est certainement une grande tradition qui remonte donc à déjà la pratique en Israël d'être obligé de se séparer d'un membre gangréné, de quelqu'un qui, dans le fond, pourrait contaminer le reste du corps. Et on a un bel exemple dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 5, où il y avait une inconduite très forte, et saint Paul dit qu'il faut se séparer de cet acteur, donc qui a mal agi, il faut qu'au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, donc c'est bien pas une impuissance, mais une puissance qui est exprimée là. C'est pas du tout une impuissance, mais c'est au contraire la puissance de l'esprit. Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors à la fois, il y a la notion d'une certaine perte par l'éloignement que cela va produire dans la communauté en se coupant de ce membre gangréné, mais en même temps, c'est pour le salut. C'est-à-dire, saint Paul n'oublie pas que toutes les actions ont comme finalité la miséricorde. Et c'est très beau parce que, malgré ce mot qui est assez terrible, eh bien, il y a la certitude que le Christ veut le salut de tous. Enlevez le mauvais du milieu de vous, dit saint Paul. Voilà, c'est ça qui est la pratique. Alors, il y a des excommunications, donc des éloignements qui sont demandés à certains membres qui ne participent plus de l'amitié de la communauté, ni non plus de sa liturgie, c'est ça l'excommunication. Pour l'apostasie, hérésie et schisme que nous avions vu la dernière fois, c'est une excommunication laté saint-ancien, c'est-à-dire qui tombe de par le fait même que quelqu'un la professe, et donc c'est même pas la peine de lui stipuler, ça va de soi, c'est publié, c'est compris. Profanation des espèces eucharistiques, c'est aussi le cas d'une excommunication laté saint-ancien, mais réservée au Saint-Siège, c'est-à-dire que un simple prêtre ne peut pas lever l'excommunication de quelqu'un qui voudrait revenir dans la communion, il est obligé d'aller demander le relèvement de sa faute au siège apostolique. Violence physique contre le pape, c'est aussi le cas, parce que le pape représente le chef de l'Église catholique, et donc c'est une excommunication laté saint-ancien réservée au Saint-Siège. Absolution de complice d'un péché contre le sixième commandement, c'est les abus sexuels, si vous voulez. Excommunication aussi laté saint-ancien réservée aussi au Saint-Siège. Et toutes ces excommunications, donc laté saint-ancien, je crois qu'on avait parlé de consécration d'un évêque sans mandat apostolique, c'est aussi une excommunication laté saint-ancien réservée au Saint-Siège. Il y a encore la violation directe du secret sacramentel et l'attentat d'ordination d'une femme ou de réception d'un ordre par une femme, c'est aussi une excommunication laté saint-ancien réservée au Saint-Siège. Les autres, elles existent aussi, mais elles ne sont pas réservées au Saint-Siège, c'est-à-dire un simple prêtre ou un évêque peuvent le lever l'excommunication dans une formule qui est particulière. C'est le cas de l'avortement, par exemple, bien connu dans nos pays où ça pullule. Et donc un prêtre, au cours de la confession de quelqu'un qui vient avouer qu'il a commis un avortement, doit, avant de lui donner l'absolution, lever l'excommunication qui est afférente au fait d'avoir commis ce meurtre.
Et là, c'est ce qui est habituel et écrit. Mais il y a des moments où le pape lui-même va faire des proclamations d'excommunication ou au moins condamner une séparation. Non, ça arrive de temps en temps.
Alors,
ça,
il peut arriver, par exemple, qu'il y ait un autre type d'excommunication. C'est des excommunications ferendae sententiae, c'est-à-dire qui sont attribuées à quelqu'un d'une manière nominative et qui passe par le biais d'une lettre qui est portée oralement ou par écrit à quelqu'un pour lui dire qu'il est désormais en situation donc, de rupture de communion avec l'Église universelle. Par exemple, en 1905, quand il y avait eu des excès d'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, il est arrivé à des évêques d'aller excommunier l'athée sententiae, le préfet qui avait agit d'une manière un peu, je dirais, excessive par rapport à ses pouvoirs. C'est le cas, on le sait, de Mgr de Cabrières, par exemple, à Montpellier. Et le préfet avait expulsé manu militari les carmes, sans beaucoup de délicatesse et de préavis. Eh bien, Mgr de Cabrières est allé lui porter dans son bureau une notification d'excommunication ferré sententiae. On pourrait l'imaginer, par exemple, par rapport à tous nos députés qui viennent de faire un loi euthanasique, et ce serait bien que chaque évêque examine son député dans son diocèse pour voir s'il ne serait pas éligible, et non pas à l'aide à mourir, mais éligible à une peine de censure, en particulier l'excommunication ferendae sententiae.
Oui. Alors on pourrait se dire, bon, ça, pour des députés qui ne croient plus en Dieu, ça ne ferait pas beaucoup d'effet.
Non.
Mais je pense que c'est une manière aussi pour l'Église d'essayer d'encourager la personne à la conversion et puis d'expliciter les choses.
Oui, et puis pour être plus clair vis-à-vis du peuple de Dieu, parce que ça fait quand même un peu bizarre d'annoncer si fermement « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre » dans de très très nombreux passages de l'Écriture, et de se dire que c'est le pain commun de ce qu'on annonce tous en solidarité, en communion, et puis d'un autre côté, on ferait tout autre chose.
Ah oui.
C'est quasiment schizophrénique.
Ah oui, oui, très bien. Oui, donc ça éclaire, ça clarifie les choses pour tout le monde.
Sinon, on a l'impression qu'on vit avec des timbrés.
Oui. Alors, on a une citation dans le numéro 817 du catéchisme de Origène. Et Origène dit que quand il y a schisme, hérésie, conflit, c'est lié au péché, mais que la vertu peut conduire à l'unité. Alors, comment peut-on être vertueux avec tous ceux qui sont séparés de nous? Donc, comment les catholiques peuvent poser des actes de vertu avec, par exemple, les orthodoxes, les protestants, les gens qui sont éloignés de la foi et qui sont blessés qui ont blessé la communion avec l'Église?
Alors, c'est sûr que la première des choses, c'est d'entretenir la flamme de la charité, hein, puisque la charité couvre une multitude de fautes, comme dit l'Écriture, en particulier Saint Jacques. Et donc, c'est ce climat de la charité qui est indispensable. Saint Augustin disait qu'on entrait dans la vérité que par la charité. « Non intratur in veritatem, nisi per caritatem. » Nul ne rentre dans la vérité que dans la charité. Et donc, on peut toujours espérer que ce climat de charité vis-à-vis de ceux qui se sont séparés, qui ne sont pas responsables au moment où cela s'est fait, mais qui sont les enfants de ceux qui se sont séparés, cette charité puisse les attirer, les conforter, leur faire d'une certaine manière poser des questions et leur permettre de, d'exercer leur sensus fidei qu'ils ont, parce que même s'ils ont été obturés en quelque manière par l'hérésie, le schisme ou l'apostasie dans lequel ils sont nés, eh bien il y a en eux un désir de vérité. Et la vertu de véracité, c'est là que le catholique peut faire du bien à tous ceux qui l'entourent en rappelant les vérités qui le nourrissent, qui le stimulent et qu'il aimerait partager avec ceux qui se sont éloignés de la vérité tout entière, comme l'annonce l'Évangile.
Ça va passer par le dialogue, alors
Le dialogue fait énormément, et c'est pour cela que le Concile Vatican II a particulièrement encouragé les différents types de dialogue. Dialogue d'abord interreligieux avec les non-chrétiens, dialogue avec les juifs intra-religion, puisque nous avons la même Bible, hein, pour l'Ancien Testament, et dialogue de communion fraternelle avec tous les chrétiens désunis avec lesquels on peut entretenir un dialogue selon ce sur quoi on est divisé. Évidemment, il y a une hiérarchie des vérités, et c'est à partir de cette hiérarchie des vérités que l'on peut commencer un dialogue.
Puis il y a peut-être la mise en commun des services auprès des plus pauvres ou des petites semences. J'imagine qu'avec de s'associer avec les protestants, oui, les orthodoxes.
Oui, le dialogue de la vie fait énormément. Le dialogue de la mission, le dialogue des œuvres peut déjà établir réétablir le mystère de la communion et ainsi proposer après la recherche de la vérité tout entière.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.